podcast RFHT.
Bonjour à tous et à tous, bienvenue à ce podcast sur les maths du RFHT et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui en podcast avec le professeur Agnès Verradier de l'hôpital Lariboisière qui est hématologiste et qui est responsable du laboratoire national de référence, du centre national de référence des microangiopathies thrombotiques. Bonjour Agnès.
Bonjour Eddy.
Je suis moi-même le docteur Eddy Azoulay, je suis réanimateur à l'hôpital Saint-Louis et notre service, avec le service d'immunohématologie, nous sommes donc centre constitutif du centre national de référence des microangiopathies thrombotiques. Alors aujourd'hui, nous allons bien sûr aborder le PTT, mais en partant des syndromes de microangiopathie thrombotique, en renforçant d'une part le dialogue avec les collègues hématologistes et l'importance des informations cliniques qui sont transmises, mais aussi une certaine compréhension des examens qui sont demandés pour ne pas cocher des cases sans savoir quelle est la finalité d'un prélèvement et son interprétation. Je vous rappelle à cette occasion qu'il y a une RCP régulière qui est organisée par le CNR et pour les cas difficiles clinico-biologiques, vous pouvez présenter votre cas à la RCP et trouver une discussion collégiale qui permet d'optimiser la prise en charge des malades. Alors Agnès, dans le cadre des syndromes de microangiopathie thrombotique, c'est-à-dire de l'association d'une hémolyse intravasculaire mécanique avec comme signature la présence de schizocytes et l'évaluation clinique qui amène au bilan organique avec une atteinte neurologique, cardiaque, rénale et autres. La recommandation est d'aller vers un diagnostic plus précis que celui des microangiopathies thrombotiques. Ce diagnostic peut se faire vers celui de purpura thrombotique thrombocytopénique que nous allons discuter aujourd'hui, vers le syndrome hémolytique et urémique lié à une toxine et d'abord qu'on appelle typique ou bien d'avoir un CHU médié par le complément ou un CHU secondaire. Mais aujourd'hui, recentrons-nous sur les PTT. Agnès, quelle est l'épidémiologie du purpura thrombotique thrombocytopénique du PTT aujourd'hui en France?
Alors finalement, aujourd'hui, grâce à un recul de près de 25 ans sur les registres internationaux, on sait que le PTT représente 20 à 25% des cas de microangiopathie thrombotique. Autrement dit, Eli, devant un syndrome de match chez un patient tout venant, la probabilité qu'il s'agisse d'un PTT est comprise entre une chance sur 5 et une chance sur 4. Donc, ce qui veut dire que dans le référentiel de toutes les maths, le PTT est donc une math fréquente. En revanche, maintenant, quand on considère le référentiel de toutes les maladies en général, le PTT reste néanmoins une maladie rare, puisque sa prévalence mondiale, et française aussi, est estimée à environ 20 cas par million d'habitants, ce qui correspond à une fréquence de 1 cas sur 50 000. En France, pour se focaliser sur notre pays, l'incidence annuelle du PTT, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an, est de l'ordre de 80 à 100 nouveaux cas de PTT chaque année. Alors, en complément de ces chiffres généraux, Eddy, il faut également savoir que le PTT est une maladie qui survient à l'âge adulte dans 90% des cas, et cela avec une nette prédominance féminine, puisque les femmes sont 2 à 3 fois plus souvent atteintes que les hommes.
Merci beaucoup Agnès pour ces informations. Donc en effet, c'est vraiment une information importante que chez l'adulte, un syndrome de MAT sur 4 ou sur 5 est un PTT, et ce qui explique l'attitude thérapeutique en urgence et la nécessité de prendre les devants avant tout résultat biologique. Les résultats de routine vont arriver dans l'heure ou dans les 2 heures, mais par contre les résultats spécialisés arriveront un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, nous ne faisons pas référence au PTT pédiatrique qui fait l'objet d'un podcast différent. Alors, quelle est la cause du purpura thrombotique thrombocytopénique? Comment est-ce que le médecin qui est en charge le patient doit aborder le malade pour avancer vers l'identification d'une cause spécifique?
Oui, effectivement. Alors, depuis le début du XXe siècle, on savait que le PTT était dû à une formation excessive, et donc tout à fait anormale, de microthrombies disséminées dans l'ensemble de la microcirculation sanguine. Mais on ne savait pas à quoi était due la formation brutale de ces microthrombies. Et finalement, la cause du PTT a été découverte il y a maintenant 25 ans, en 1998 exactement, grâce à la découverte d'une nouvelle enzyme de l'hémostase qui s'appelle ADAMS13 et dont tu as déjà parlé, Eddy. Alors, je vous propose d'abord de nous intéresser à ce qui se passe dans une situation normale pour bien comprendre ce qui se passe dans la situation pathologique du PTT. Donc, de manière physiologique, Adam Strez a pour rôle de réguler le pouvoir adhésif aux plaquettes sanguines d'une protéine de l'hémostase qu'on appelle le facteur vibrante. Alors, qu'est-ce qui se passe en physiologie? Donc, en réponse à une petite brèche vasculaire physiologique, hein, ça se produit tous les jours dans notre corps, que les vaisseaux se lèsent un petit peu, le facteur vibrante est une protéine qui est indispensable à la formation du clou plaquettaire qui va venir réparer cette brèche, puisque c'est lui qui va servir de colle biologique en se liant aux plaquettes sanguines. Ce qu'il faut savoir, c'est que le facteur vibrante a la particularité de circuler dans le sang sous la forme de multimères de différentes tailles et que plus ces multimères sont grands, plus ils sont collants aux plaquettes. Donc l'équilibre idéal entre hémorragie et thrombose dans la microcirculation sanguine, vous le comprenez bien, est donc très dépendante de la distribution des multimères du facteur vibrante. Encore une fois, de manière physiologique, c'est là qu'intervient Adam Strez, en clivant, c'est-à-dire en cassant, en coupant, si vous préférez, les plus grands multimères de facteur vibrante, afin de réguler le pouvoir adhésif du facteur vibrante vis-à-vis des plaquettes sanguines. Adam Strez est donc une protéase qui clive spécifiquement le facteur vibrante. Alors maintenant, que se passe-t-il en pathologie et notamment chez les patients atteints de PTT? Alors chez les patients atteints de PTT, on a découvert il y a 25 ans, comme je vous le disais, qu'Adam Strez était anormal et plus exactement qu'il existait un déficit sévère d'Adam Strez avec des taux inférieurs à 10% de ceux d'un sujet normal. La suite est finalement assez facile à comprendre. En l'absence d'Adam Strez, le facteur vibrante n'est pas clivé correctement, ces grands multimères se retrouvent en excès dans le sang et comme ils sont très adhésifs, ils se lient spontanément et de manière excessive aux plaquettes sanguines. La conséquence directe de cela est donc la formation anormale spontanée de microthrombies constituées de plaquettes et de facteurs vibrantes dans l'ensemble des petits vaisseaux de l'arbre vasculaire.
Alors c'est vrai que on voit maintenant bien quel est le problème et la différence entre la situation physiologique et la situation pathologique du PTT est extrêmement claire et finalement on comprend bien le rôle d'Adam Strez et donc au cours des syndromes de microangiopathie thrombotique, Adam Strez va finalement permettre de donner la signature de ces PTT. Quand Adam Strez est indétectable, on est donc dans une situation de PTT. Quand Adam Strez est normal et que le prélèvement a été fait dans des bonnes conditions, eh bien, on est donc dans une situation où il n'y a pas de PTT. Alors, Adam Strez a finalement trouvé aujourd'hui un rôle clé dans la signature du PTT. Ce déficit en Adam Strez, il est en général acquis chez l'adulte. Est-ce que tu peux nous dire, Agnès, quels sont les facteurs qui causent ce déficit sévère en Adam Strez?
Oui, bien sûr. Donc ça, c'est un point extrêmement important aussi, non seulement pour le diagnostic biologique, mais aussi pour vous, cliniciens, pour adapter le traitement, de bien connaître en fait à quoi est dû ce déficit en sévère en Adam Strez. Il n'y a pas une seule cause. Alors, dans la grande majorité des cas, plus exactement dans au moins 75% des cas de PTT, ce sont des auto-anticorps anti-Adam Strez qui sont responsables du déficit sévère d'Adam Strez. Ces auto-anticorps sont à la fois, en effet, complexants et inhibiteurs, c'est-à-dire qu'en se liant à la protéase Adam Strez, ils accélèrent sa clairance et ils bloquent également son site catalytique. Autrement dit, dans trois quarts des cas, le PTT est finalement une authentique maladie auto-immune. Avec un traitement immunosuppresseur spécifique, ces auto-anticorps disparaissent le plus souvent et le patient retrouve alors une activité d'Adam Strez normale en rémission à l'issue de sa poussée de PTT qui a été correctement traitée, dont il est sorti. Alors, au contraire, dans une minorité de cas, c'est-à-dire environ 5% des cas de PTT, ce sont des mutations du gène d'Adam Strez qui sont responsables du déficit sévère en Adam Strez. Ces mutations génétiques sont transmises sur un mode autosomique récessif, ce qui implique qu'il y a autant de garçons que de filles atteintes, ou autant de femmes que d'hommes, comme vous voulez, et que les deux allèles du gène doivent être mutés pour conduire à un PTT. Le PTT, qu'on appelle donc congénital ou héréditaire, s'appelle syndrome d'Upshaw-Schulman et c'est une entité qui est extrêmement rare. Par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, la cohorte française de PTT héréditaire génétique dénombre une grosse centaine de patients, mais pas plus. Alors, dans les 20% de cas restants, dans les 20% de PTT restants, où il n'y a pas d'auto-anticorps, où il n'y a pas d'anomalie génétique, qu'est-ce qui est à l'origine du déficit sévère en ADAMS13? Ben, on ne sait pas très bien actuellement. La seule chose qu'on sache, c'est que ces formes sont acquises. Pourquoi? Parce que les patients retrouvent une activité d'ADAMS13 normale quand on les suit en rémission. Les mécanismes qui sont retenus aujourd'hui pour expliquer ces déficits sévères d'ADAMS13 qui ne sont ni des auto-anticorps ni des mutations du gène sont hypothétiques finalement à l'heure où je vous parle et pourraient relever soit d'un défaut de synthèse ou de sécrétion de l'enzyme, soit d'une dégradation excessive de l'enzyme ADAMS13 sous l'effet de facteurs extérieurs comme des cytokines ou des enzymes liées au sepsis ou à la fibrinolyse par exemple. Mais encore une fois, tout ça reste hypothétique. Donc voilà les trois grands cadres de mécanismes de déficit sévère en ADAMS13.
Merci beaucoup Agnès. Je pense que c'est vraiment le fait de savoir que 95% des formes sont acquises et que trois quarts des formes sont auto-immunes. Ça permet de comprendre la nécessité de démarrer donc ce que dans le CNRMAT on appelle la triplette, c'est-à-dire un traitement substitutif en ADAMS13 par la plasmaférèse, un traitement immunosuppresseur pour la partie auto-immune, qui aujourd'hui est essentiellement constituée de corticoïdes et d'anticorps anti-CD20, et puis un traitement qui va inhiber l'adhésion des plaquettes avec le facteur vibrant pour éviter la maladie ischémique en aval et éviter l'atteinte cardiaque, l'atteinte neurologique, ou en tout cas l'altérer ou l'améliorer si le malade l'a déjà à la présentation. Alors, ce déficit ADAMS13 qui est à l'origine du PTT, finalement, il est relativement prévalent. Est-ce que l'exploration biologique doit s'arrêter à l'activité ADAMS13 ou est-ce qu'elle doit aller au-delà pour le diagnostic et pour le suivi du PTT?
Oui, en d'autres termes, oui, c'est effectivement la question clé que tu poses ici, Elie, c'est-à-dire quelle est la place de l'exploration biologique d'ADAMS13 dans le diagnostic et aussi dans le suivi du PTT. Donc, pour vous faire un tour d'horizon court, parce qu'on peut en parler pendant des heures, pour faire simple et pragmatique. Donc, dans le cadre des soins, j'insiste, c'est la mesure de l'activité d'ADAMS13 dans le plasma ou dans le sérum qui est le premier examen à réaliser. C'est vraiment l'examen de première ligne. La mesure de l'activité d'ADAMS13. Donc, en 25 ans, vous vous doutez bien que les techniques de mesure de cette activité d'ADAMS13 ont considérablement évolué, en passant d'une technologie lourde, qui était au départ réservée aux laboratoires de recherche, à une technologie beaucoup plus simplifiée et assez simple aujourd'hui, qui est accessible aux laboratoires de CHU. Cependant, il faut garder à l'esprit que la mesure de l'activité d'ADAMS13 demeure aujourd'hui un examen très spécialisé, qui n'est pas disponible en urgence, ça c'est très important, et qui nécessite une expertise biologique spécifique, et ça c'est tout aussi important. Alors maintenant, en présence d'une activité d'ADAMS13 effondrée, donc inférieure à 10%, quelle est la suite des choses à faire? Donc la première chose déjà à avoir à l'esprit, c'est que cette activité d'ADAMS13 effondrée inférieure à 10%, c'est le seul paramètre qui permettra de confirmer définitivement le diagnostic de PTT devant un tableau clinique de maths. A contrario, si l'activité d'ADAMS13 est normale, ou en tout cas détectable et largement supérieure à 10%, à ce moment-là, on infirme le diagnostic de PTT, évidemment. Alors, la réalisation de cet examen est donc, encore une fois, j'insiste, indispensable à confirmer le diagnostic ou à l'infirmer à partir de la suspicion clinique qui a été faite au départ. Deux choses capitales. Premièrement, le prélèvement sanguin doit être réalisé avant tout traitement. Et ça, c'est vraiment très très important pour avoir la confirmation diagnostique. Un prélèvement qui est fait alors que la plasmathérapie notamment a déjà été débutée ne va pas être exploitable parce que ce qu'on va doser dans le plasma, ce n'est pas l'ADAMS13 endogène du patient, mais c'est l'ADAMS13 exogène qui a été apporté par le plasma. Donc encore une fois, les cliniciens doivent garder à l'esprit que pour le prélèvement biologique qui servira au diagnostic, il faut prélever avant tout traitement et notamment avant l'échange plasmatique. Deuxième chose importante, c'est que le délai d'obtention du résultat, je vous disais tout à l'heure que c'est un examen qui n'est pas un examen d'urgence, c'est un examen trop spécialisé pour cela à l'heure où je vous parle. Donc le délai d'obtention du résultat ne doit en aucun cas retarder l'initiation du traitement. L'initiation du traitement, comme tu le sais, Élie, les cliniciens le font sur une suspicion clinique, sur l'expérience et aussi sur l'établissement et sur le calcul de scores spécifiques qui vont être, j'en suis sûre, abordés dans les topos d'aval de ce podcast, de manière à pouvoir commencer le traitement si la suspicion clinique est suffisamment forte. En d'autres termes, il faut commencer le traitement, quitte à avoir un doute, mais en aucun cas ne attendre le résultat d'un stress pour initier un traitement, parce que le pronostic vital du patient est engagé. Encore une fois, c'est une urgence vitale. Alors maintenant, imaginons dans le cas de figure où on a mesuré un déficit sévère en Adam stress de l'activité, donc une activité inférieure à 10%, l'examen de seconde ligne à faire, c'est le titrage des IgG anti-Adam stress, c'est-à-dire qu'on documente le mécanisme du déficit en Adam stress. Donc, dans la majorité des cas, c'est cet examen de deuxième intention qui va répondre à la question. Et puis, dans des cas très particuliers, sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre ici, mais notamment quand les IgG restent négatives et quand l'activité d'Adam stress reste inlassablement inférieure à 10% dans le suivi du patient, donc dans de rares indications, on peut être amené à séquencer le gène d'Adam stress pour éventuellement documenter un diagnostic de PTT congénital ou héréditaire. Donc, je répète, examen de première intention, activité d'Adam stress. Deuxième intention, titrage des auto-anticorps, des IgG anti-Adam stress. Et s'il y a lieu, séquençage du gène d'Adam stress. Donc, au-delà de cette phase diagnostique, maintenant, de la poussée inaugurale de PTT, il faut garder à l'esprit que le monitoring de l'activité d'Adam stress a démontré son intérêt dans ces 10 dernières années pour guider et ajuster le traitement du PTT au cours du suivi. Et plus de détails vous seront donnés dans un podcast à suivre.
Merci beaucoup Agnès. En complément de ce que tu dis, et comme tu as vraiment bien ouvert la discussion sur l'urgence thérapeutique, donc l'urgence thérapeutique ne repose pas sur Adam stress, elle repose sur une situation clinique qui est un syndrome de Matt chez l'adulte, évoquant un PTT. Et en effet, il y a en dehors de l'examen clinique, il y a une espèce d'algorithme qui a été proposée. Et finalement, le French score, c'est-à-dire le score qui a été publié pour le CNR de référence par Paul Coppeau, qui présente les choses en disant que le PTT est une maladie où les plaquettes sont volontiers plus basses que dans les autres syndromes de Matt et où l'atteinte rénale est volontiers moins intense que dans les autres syndromes de Matt, permet d'engager en effet les malades vers un traitement en urgence qui est un traitement de type PTT. N'oubliez pas que par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner une contre-indication au traitement qui inhibe l'adhésion entre les plaquettes et le facteur vibrante. C'est un syndrome hémorragique probant. Quand les malades ont un syndrome hémorragique, on évite de leur donner donc ce traitement qui va lui-même favoriser l'hémorragie, mais donc on le monitore quand les malades n'ont pas d'hémorragie au départ, mais quand il y a une hémorragie en particulier cérébrale ou digestive, on évite de donner ce traitement. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe plus volontiers dans les tableaux les plus sévères ou les tableaux qu'on observe chez les personnes âgées. Nous voilà rendus pour ce podcast. Je remercie le professeur Verradier et vous avez compris l'importance des informations cliniques qui doivent être partagées quand on demande un bilan devant un syndrome de Matt et des discussions clinico-biologiques. N'hésitez pas à avoir recours au RCP Matt qui permettent quand même, outre le fait qu'on apprend beaucoup de choses, de régler et d'optimiser les cas les plus difficiles pour les patients pour lesquels la discussion collégiale et multidisciplinaire est très importante. Je vous souhaite une bonne journée Agnès, et merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast.
Merci Élie, bonne journée à toi et bonne journée à vous tous, et merci de votre attention. Au revoir.
Podcast RFHT.